Exposition biblique, chapitre 13. L'amour de Christ qui accomplit les dons. La réalité de l'amour qui accomplit les dons. Voyez-vous que cela indique que, parmi les nombreux dons que possède l'Église, l'amour qui vient de la foi est le plus grand don? Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Première épître aux Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 3. En regardant la Bible, elle montre clairement le fait qu'il y a de nombreux dons dans l'Église, mais que le plus grand d'entre eux est l'amour. Après avoir expliqué les divers dons du Saint-Esprit dans 1 Épître aux Corinthiens 12, l'apôtre Paul poursuit immédiatement en soulignant l'importance de l'amour dans 1 Épître aux Corinthiens 13. Paul dit ceci dans 1 Épître aux Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 2. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Cette parole montre que, peu importe la grandeur des dons et des capacités, s'il n'y a pas d'amour, ils ne peuvent pas avoir de véritable valeur. Les dons sont des outils pour édifier l'Église. Mais s'il n'y a pas d'amour, ces dons peuvent se plutôt apporter la confusion dans la communauté. De plus, Paul conclut ainsi dans 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13, « Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. » Cette parole indique clairement que l'amour est la chose la plus importante parmi tous les dons et éléments de la foi. L'amour n'est pas une simple émotion, mais un cœur qui cherche le profit des autres et qui édifie la communauté. Les dons du Saint-Esprit sont différents les uns des autres, mais pour que tous ces dons soient utilisés correctement, la foi doit être au centre du cœur. Lorsque la foi qui croit au baptême que le Seigneur a reçu de Jean, à sa mort sur la croix et à sa résurrection est dans nos cœurs, les dons sont utilisés dans le but d'édifier la communauté et l'Église est bâtie plus sainement. Par conséquent, la Bible met l'accent sur les dons, mais enseigne en même temps de manière répétée le fait que les dons, sans la foi, perdent leur véritable signification. Le plus grand don dans l'Église n'est pas la capacité d'élever une personne, mais l'amour qui nous pousse à nous édifier et à nous servir les uns les autres. En fin de compte, il y a de nombreux dons dans l'Église, mais la Bible indique clairement le fait que le centre qui nous permet d'utiliser tous ces dons correctement est l'amour, et que l'amour est le plus grand don. Paul commence par une série d'exemples extrêmes. Même si quelqu'un parle les langues des hommes et des anges, a la capacité de prophétiser pour connaître tous les mystères et toute la connaissance, à la fois pour transporter des montagnes, et livre même son corps pour être brûlé, il déclare fermement « Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Cela ne me sert de rien. » L'amour dont il est question ici et l'amour qui découle de la foi qui croit au Seigneur qui, en recevant le baptême de Jean, a vu les péchés du monde être transférés sur lui, a versé son sang et est mort sur la croix, puis est ressuscité. Cela ne nie pas les dons eux-mêmes. Le problème survient au moment même où les dons s'écartent de l'ancrage qui est le but de l'Évangile. L'Évangile de l'eau et de l'Esprit est l'Évangile selon lequel, par le fait que Jésus a reçu le baptême de Jean, les péchés du monde ont été transférés sur le corps de Jésus, le jugement de ses péchés a pris fin sur la croix, et par sa résurrection d'entre les morts, notre salut a été accompli. Les dons et le dévouement accomplissent en l'amour, qui est le fruit que cet Évangile de l'eau et de l'Esprit doit nécessairement porter, ne sont rien d'autre que de simples performances religieuses, et ne peuvent pas témoigner de la puissance du salut. L'amour que les chrétiens ont ne vient-il pas fondamentalement de Jésus-Christ? La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Première Épître aux Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7. selon les enseignements de la Bible, on peut dire que le véritable amour que les chrétiens ont est fondamentalement un amour qui est venu de Jésus-Christ. L'amour humain est limité et incomplet, mais parce que l'amour que Dieu a manifesté apparaît à travers les chrétiens, c'est un amour parfait. Première épître de Jean chapitre 4 verset 10 dit ceci. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Cette parole montre le fait que le commencement de l'amour n'est pas dans l'homme, mais en Dieu. Dieu a aimé l'homme le premier, et à travers cet amour, par le baptême de Jésus-Christ, son sang sur la croix, sa mort et sa résurrection, il est devenu notre Sauveur. De plus, Première épître de Jean chapitre 4 verset 19 dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier ». La raison pour laquelle les chrétiens peuvent aimer les âmes n'est pas parce que les êtres humains ont originellement beaucoup d'amour, mais parce qu'ils sont ceux qui ont d'abord reçu l'amour du salut donné par Dieu. Jésus a directement montré qu'il est devenu notre Sauveur parce que, par le baptême qu'il a reçu de Jean, il a vu les péchés du monde être transférés sur lui, a subi le jugement du péché en étant pendu et en versant son sang sur la croix, et est ressuscité d'entre les morts. Jésus a vu les péchés des habitants du monde être transférés sur son propre corps par le baptême et nous a manifesté son amour par sa mort et sa résurrection sur la croix. Par conséquent, dans Jean chapitre 15, verset 13, il a dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Pour cette raison, ceux qui croient en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent dire que l'amour qui vient de leur cœur n'est pas une émotion humaine, mais un amour qui découle de Christ. Lorsque l'amour du salut donné par Dieu apparaît dans la vie des saints, ils se servent les uns les autres au sein de l'Église et la communauté est édifiée. Par conséquent, la Bible dit que l'évangile de l'eau et de l'esprit manifeste l'amour de Jésus-Christ. Dans Galates 5, il est écrit que le premier parmi le fruit de l'esprit est l'amour. Cet amour est le véritable amour, c'est-à-dire l'amour manifesté par Jésus recevant le baptême de Jean pour que les péchés du monde soient transférés sur lui, versant son sang et mourant sur la croix, puis ressuscitant d'entre les morts. Par conséquent, l'amour qui émane de la foi qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit est l'amour qui découle de ceux qui croient au salut accompli par Jésus-Christ. En fin de compte, la source de l'amour que les chrétiens ont ne se trouve pas dans l'homme, mais dans l'amour du salut contenu dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Parce que les saints ont expérimenté l'amour de Christ et ont accepté cet amour coule vers d'autres personnes à travers la vie des croyants. L'amour que Paul décrit est l'amour qui vient de la foi qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'amour est patient et plein de bonté. Il n'est point envieux, il ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point et il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout et il supporte tout. Cet amour ne se produit pas naturellement à l'intérieur des êtres humains. Cela décrit l'œuvre rédemptrice elle-même accomplie par Jésus-Christ. Le fait que Jésus reçoive le baptême de Jean pour que les péchés du monde soient transférés sur lui, qu'il soit crucifié pour recevoir le jugement du péché en notre nom, puis qu'il ressuscite d'entre les morts, c'est exactement cela l'amour. Le Seigneur n'a pas renoncé au salut des pécheurs jusqu'à la toute fin. L'amour contenu dans cette œuvre de salut est le véritable amour. Dans un sens profond, l'amour est la manifestation réelle de l'évangile de l'eau et de l'esprit dans la vie d'une personne. Les dons de Dieu et l'amour de Jésus-Christ sont-ils éternels? La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Première épître aux Corinthiens, chapitre 13, versets 8 à 10. Selon les enseignements de la Bible, l'amour du salut et la grâce du salut donné par la grâce de Dieu sont un amour qui apparaît éternellement à ceux qui croient. On peut dire que l'amour de Christ est éternel. C'est parce que l'amour du salut que Dieu et Jésus nous ont donné n'est pas un amour temporaire, mais un amour éternel. Par conséquent, l'amour de Jésus-Christ nous apparaît éternellement. Dans Romains chapitre 8, versets 38 à 39, l'apôtre Paul dit ceci. car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Cette parole est une déclaration selon laquelle rien ne peut séparer l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Elle montre le fait que ni la persécution, ni la souffrance, ni la mort, ni quoi que ce soit d'autre ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur. C'est parce que cet amour n'est pas un amour qui disparaît selon le mérite ou la condition humaine, mais l'amour de Dieu qui ne change pas éternellement. De plus, parce que les dons de Dieu nous sont donnés par Dieu, ils appartiennent au Dieu fidèle. Romains chapitre 11, verset 29 dit « Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. » C'est le fait que Dieu n'est pas quelqu'un qui donne et retire capricieusement comme une personne, mais celui qui accomplit fidèlement ses promesses. Surtout en ce qui concerne l'amour, la Bible parle plus clairement. Dans 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 8, Paul dit « La charité ne périt jamais ». Il explique que, bien que des dons tels que les langues ou les prophéties puissent prendre fin selon les temps et les circonstances, l'amour est ce qui demeure éternellement. Cette parole signifie que parmi les dons donnés par Dieu, l'amour est le plus grand et possède une valeur éternelle. Elle signifie que parce que l'amour est lié au caractère même de Dieu, il ne disparaît pas. En fin de compte, la vérité importante que la Bible montre est la suivante. La grâce du salut et l'appel donné par Dieu sont fondés sur la fidélité de Dieu et l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ est un amour qui ne change pas éternellement. Ceux qui croient en cet amour du salut par lequel Jésus a reçu le baptême de Jean pour que les péchés du monde soient transférés sur lui et a subi le jugement du péché en notre nom sur la croix, vivent dans cet amour et nourrissent une espérance éternelle dans leur relation avec Dieu. Paul proclame l'amour du salut. La charité ne périt jamais, mais les prophéties prendront fin, les langues cesseront et la connaissance disparaîtra. Les dons, par leur nature, sont des outils adaptés à une saison spécifique et sont nécessaires à la vie d'une personne. Cependant, l'amour est une réalité qui continue même après la fin de ce long voyage. L'évangile de l'eau et de l'esprit nous a déjà embrassés avec l'amour du salut, mais sur cette terre, ce salut continue d'être révélé à travers un processus de témoignage et de croissance. Dans ce processus, les dons sont nécessaires, mais la substance de son accomplissement n'est que l'amour. La croissance de la foi ne se manifeste-t-elle pas sous forme de maturité ? Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 13, versets 11 à 12. Selon les enseignements de la Bible, il est exact que la croissance de la foi se manifeste finalement par une apparence mature. C'est parce que la foi n'est pas simplement une augmentation des connaissances, mais un processus dans lequel la foi envers Dieu et l'attitude envers la vie mûrissent progressivement. L'apôtre Paul explique la croissance de la foi ainsi dans Éphésiens chapitre 4, versets de 13 à 14, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants. Cette parole montre que le but de la foi ne consiste pas simplement à commencer à croire, mais en une foi mature qui atteint la mesure de la stature de Christ. De plus, Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14 met l'accent sur la maturité de la foi. Il y est dit qu'au début, on est comme un enfant qui boit du lait, mais qu'avec le temps, on doit grandir vers une foi mature capable de manger de la nourriture solide. Cela signifie que la foi ne reste pas simplement à ses débuts, mais s'approfondit progressivement et en vient à se manifester comme le fruit de l'amour parfait. La maturité de la foi se manifeste sous plusieurs formes. Premièrement, c'est grandir dans la capacité de comprendre et de discerner la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est passer d'une vie centrée sur soi-même à une vie centrée sur Dieu. Troisièmement, c'est la manifestation d'une vie d'amour, d'humilité et de service. Quatrièmement, c'est une foi stable qui ne chancelle pas, même dans les difficultés. La Bible souligne tout particulièrement que la maturité de la foi se manifeste par l'amour. Éphésiens chapitre 4, verset 15 dit « Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. » À mesure que la foi mûrit, une personne devient davantage une personne de foi et vit une vie consistant à élever les autres comme d'autres disciples de Jésus. En fin de compte, la croissance de la foi n'est pas simplement une augmentation des activités religieuses, mais la transformation de l'apparence de la vie dans le but de ressembler à Jésus-Christ à travers la croissance de la foi. Par conséquent, on peut dire que la croissance de la foi dont parle la Bible se manifeste finalement par une foi mature et la propagation de l'Évangile. Paul met en contraste un enfant et un homme mature. Lorsqu'il était enfant, sa façon de parler, de penser et de comprendre était celle d'un enfant. La caractéristique décisive d'un enfant est la compréhension partielle. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Ce verset souligne un état partiel de foi enfoui dans les dons, les expériences subjectives ou l'assurance de soi. L'évangile de l'eau et de l'esprit nous conduit du partiel au parfait et de l'égocentrisme à la propagation christocentrique de l'évangile. La preuve de cette maturité est précisément l'évangile du salut en Jésus-Christ et son fruit est le fruit du salut. La foi, l'espérance, l'amour, la plus grande de ces choses est l'amour. Maintenant donc, ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13. La Bible dit clairement que la plus grande parmi la foi, l'espérance et l'amour est l'amour. L'apôtre Paul dit ceci dans Première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Cette parole parle de trois éléments importants dans la vie de foi. Premièrement, la foi consiste à croire et à s'appuyer dans le cœur sur l'évangile de la vérité du salut par Dieu le Père et Jésus-Christ. Par la foi, une personne commence une relation avec Dieu et en vient à accepter l'amour de la grâce de Dieu dans son cœur. Ensuite, l'espérance est la foi qui regarde vers l'avenir et le salut promis par Dieu. Les saints vivent en regardant au-delà de leur vie présente vers le jour où Jésus-Christ viendra en tant que Seigneur du second avènement et emmènera son peuple dans le royaume éternel que le Seigneur établira. Et c'est l'espérance d'être appelé par le Seigneur tout en propageant la parole de l'Évangile de Dieu par la foi en l'amour venant de Dieu. L'amour n'est pas une simple émotion, mais c'est l'espérance de vivre en établissant une communauté de foi, en croyant en la parole de vérité venant de Jésus-Christ et au salut qu'il a donné. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Paul a dit que l'amour est le plus grand. Premièrement, c'est parce que l'amour est profondément lié à la foi qui croit en la justice de Dieu. La Bible dit « Dieu est amour », première épître de Jean chapitre 4, verset 8. Deuxièmement, l'amour jaillit en croyant en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, même s'il y a des dons, s'il n'y a pas le centre du cœur désirant vivre dans l'obéissance à la parole du Seigneur, tout peut devenir vain. Troisièmement, c'est parce que l'amour dure pour toujours. Première épître aux Corinthiens 13 dit que les dons comme la prophétie ou les langues finiront par disparaître, mais que l'amour de Dieu ne passera jamais. Par conséquent, la Bible enseigne que la foi et l'espérance sont également importantes, mais que l'amour doit être au centre de toutes ces choses. L'amour commence par Dieu, se manifeste dans la foi des justes et est la plus grande puissance qui édifie l'Église de Dieu et unit la communauté en un seul corps. Paul conclut le chapitre 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. L'espérance de la foi consiste à s'accrocher fermement au salut déjà reçu par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. L'espérance est le cœur qui attend le jour où la promesse de la parole du Seigneur sera pleinement manifestée. Et l'amour est ce salut se manifestant visiblement dans la vie présente. La raison pour laquelle l'amour est le plus grand est que l'amour est le fruit du salut. Et en même temps, la foi qui prouve la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Première épître aux Corinthiens 13 nous pose aujourd'hui une question perspicace. Que révèle votre foi? Sont-ce vos dons? Ou le salut des âmes mené à bien par la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Un sermon de Paul Sijong, première épître aux Corinthiens, chapitre 13. Bien-aimés saints, aujourd'hui, à travers les paroles de première épître aux Corinthiens 13, nous allons examiner en profondeur quelle est l'essence de l'amour et d'où vient cet amour du point de vue de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ce chapitre est communément appelé le chapitre de l'amour, mais il ne parle pas d'un simple amour émotionnel, c'est plutôt une parole qui montre l'aspect essentiel de la vie qui apparaît chez une personne qui connaît l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'apôtre Paul déclare d'abord très fortement « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Cette parole est choquante. Même si l'on a de nombreux dons, même si sa connaissance est profonde et même si sa foi semble grande, s'il n'y a pas d'amour, on n'est rien. Alors, quel est l'amour dont il est question ici? Ce n'est pas une simple émotion humaine. Cet amour est l'amour que Dieu nous a d'abord accordé, c'est-à-dire l'amour révélé dans l'Évangile. Jésus a pris tous nos péchés sur lui-même en étant baptisé par Jean, a été jugé sur la croix avec ses péchés et a accompli le salut en ressuscitant d'entre les morts. C'est exactement cela l'amour de Dieu. Cet amour n'est pas seulement un amour de mots, mais un événement où il a réellement pris nos péchés sur lui-même à notre place. Par conséquent, l'amour dont il est parlé dans 1 Épître aux Corinthiens 13 n'est pas quelque chose que nous créons, mais quelque chose qui découle de l'amour que nous avons déjà reçu. Paul continue ensuite à expliquer le caractère de l'amour. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Beaucoup de gens acceptent cette parole comme une norme selon laquelle nous devons vivre ainsi. Cependant, ce n'est pas la loi. C'est un aspect qui apparaît naturellement chez une personne qui connaît l'Évangile. Pourquoi cela? Parce qu'une personne qui connaît l'Évangile de l'eau et de l'esprit n'essaie plus de faire ses preuves. C'est quelqu'un qui a déjà reçu l'effacement des péchés en Jésus. Pour cette raison, il n'y a aucune raison d'envier, aucun besoin de se vanter et aucun motif d'être orgueilleux. De plus, il dit « Elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal ». Cela non plus n'est pas une attitude créée par la force. Si l'on ne connaît pas l'Évangile, on vivra inévitablement de manière égocentrique. Cependant, pour une personne qui connaît l'Évangile, le centre change. Elle n'est plus dirigée vers elle-même, mais vers Dieu et vers les autres. Et Paul dit « Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité ». Le mot important ici est « vérité ». L'amour ne peut être séparé de la vérité. Obscurcir l'Évangile, traiter le péché à la légère ou compromettre la vérité au nom de l'amour n'est pas le véritable amour. Le véritable amour n'existe que sur la vérité de l'Évangile. C'est-à-dire que l'amour qui apparaît sur l'Évangile de l'eau et de l'esprit est le véritable amour. Paul dit donc, en conclusion ceci, « La charité ne périt jamais. Les dons, la connaissance et les langues finiront par prendre fin. Mais l'amour est éternel, parce que cet amour est venu de Dieu. » Et Paul explique notre état actuel ainsi, « Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Nous ne sommes pas parfaits maintenant, notre connaissance est limitée et notre compréhension est partielle. Cependant, il y a une chose claire, c'est le fait que nous sommes ceux qui ont déjà reçu l'amour de Dieu. Et parce que cet amour est en nous, nous sommes devenus ceux qui peuvent vivre par cet amour. » Enfin, Paul dit ceci, « Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Pourquoi l'amour est-il le plus grand? La foi sert à recevoir le salut et l'espérance consiste à regarder ce qui s'accomplira dans le futur. Mais l'amour est ce que Dieu nous a déjà donné et parce qu'il dure pour toujours. Bien-aimé saint, 1 Épître aux Corinthiens 13 n'est pas une parole qui nous commande simplement d'aimer. C'est plutôt demander ceci. Connaissez-vous vraiment cet amour? Si nous luttons encore pour aimer, c'est peut-être parce que nous ne connaissons pas encore profondément l'Évangile. Cependant, une personne qui croit pleinement à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est différente. Parce qu'elle est quelqu'un qui a déjà reçu l'amour de Dieu, cet amour s'écoule naturellement. Jésus a pris tous vos péchés sur lui-même par le baptême, a complètement résolu ses péchés sur la croix et a accompli le salut par la résurrection. Celui qui croit en cet amour n'est plus une personne qui vit pour elle-même, mais devient une personne qui vit par cet amour. Maintenant, notre foi doit changer. Elle ne doit pas consister à lutter pour aimer, mais elle doit devenir une vie vécue dans l'amour déjà reçu. Je prie au nom du Seigneur pour que cet évangile s'enracine profondément dans vos cœurs, afin que le véritable amour apparaisse naturellement dans vos vies,